Aujourd'hui, c'est donc un message particulier que je partage avec vous. C'est le message de vision de l'année 2016. J'espère que ce message est une parole de l'Esprit, une parole de Dieu pour notre Église, pour nous conduire encore plus loin dans tout ce qu'il a préparé pour nous et dans tout ce qu'il veut accomplir pour sa gloire. Amen. Cette année 2016 est une année particulière puisque c'est exactement en février, le 20 février, je crois, que l'Église fêtera ses 80 ans. Vous voyez, c'est donc une Église avec une longue histoire. C'est une Église aussi avec une nouvelle histoire. Une Église qui vit son histoire, qui ne vit pas simplement une histoire au passé, mais qui vit une histoire au présent et qui veut vivre une histoire dans l'avenir. Gloire à Dieu. Et cette histoire, nous la vivons ensemble et nous sommes émerveillés de voir ce que le Seigneur accomplit au milieu de nous. Mais cette année 2016 sera aussi, dans l'histoire de notre Église, une année charnière. Mes frères et sœurs, jusque-là, en nous étirant, en nous accommodant, nous avons pu accueillir la croissance que le Seigneur nous donne dans notre cadre actuel de notre assemblée de Bastille. Et en quelques années, vous le savez bien, nous sommes passés de 1 à 2, puis à 3 et enfin à 4 cultes. Et en l'espace de 8 ans, les auditoires sont passés de 250 à 1000 personnes adultes la semaine dernière. Et nous bénissons Dieu pour cette croissance qu'il nous accorde. C'est une croissance que nous voyons le dimanche, mais c'est une croissance aussi qui est réelle en semaine et qui est réelle dans les ministères. Je bénis Dieu de ce que nous avons des réunions de semaine, des réunions de prière qui sont pleines. L'Église est pleine le mardi soir. C'est une chose qui témoigne de notre soif, votre soif de la parole, de votre soif de prière. Et cette soif de prière est démontrée aussi dans les nuits de prière. Lorsque nous avons eu notre dernière nuit de prière il y a une dizaine de jours, il y avait plus de 250 personnes qui étaient là. Et on a vécu des moments magnifiques dans la présence du Saint-Esprit. Je n'oublie pas des ministères comme celui de Jappe, qui aujourd'hui atteint plus de 200 à 300 jeunes adultes dans notre assemblée. Je n'oublie pas aussi tous les ministères qui sont à côté, qui nous accompagnent dans la croissance de l'Église. Je pense à celui de la vidéo où nous avons commencé là avec une caméra et aujourd'hui nous nous préparons pour diffuser nos enseignements sur des chaînes de télévision à travers la demande des télévisions américaines. Et nous voyons que le Seigneur nous a amenés de progrès en progrès, de croissance en croissance maintenant. Maintenant, non seulement est-il évident qu'avant fin 2016 et peut-être même avant l'été, nos quatre cultes, qui représentent les meilleurs horaires pour accueillir, seront saturés. Et il en sera pareil aussi pour les réunions de semaine, le mardi, le vendredi. Et déjà, je dois confesser devant vous que je n'ai pas forcément fait ce que j'aurais dû faire cette année. Je me suis longtemps posé la question de savoir si je ne devais pas ouvrir une deuxième réunion avec mes collègues le jeudi soir, parce qu'il est évident que le mardi, nous étions pleins. Et ce sont des raisons, disons, de considération fraternelle, on va le dire comme ça, qui nous ont amenés à ne pas ouvrir le jeudi soir, tenant compte déjà de l'engagement de plusieurs, tout au long des différents programmes que nous avons. Mais nous voyons que nous sommes là face à des défis. Et toute croissance nouvelle entraîne et entraînera de plus en plus des pressions supplémentaires sur notre Église, qui, à cause de nos limites immobilières et parfois saturées, restreintes, mais aussi à cause de ces limites, il devient très difficile de supporter la croissance. Mes frères et sœurs, nous avons peut-être l'impression, par moment, d'être face à un mur ou d'avoir atteint un plafond qui nous paraît bien difficile de dépasser sans un miracle divin ou alors sans un effort de travail renouvelé et de consécration. Toutefois, nous avons posé une déclaration de foi. Il y a quelques semaines, nous avons donc voté pour changer le nom de notre Église. Je le dis, ce n'est pas simplement un effet marketing ou autre. Nous sommes passés d'Église Paris-Bastille à Église Paris-Métropole. Ceci, c'est un témoignage prophétique. Un témoignage où nous disons, nous avons bien travaillé ici à Bastille, mais nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons partagé ensemble. Nous voulons dire que nous avons une vision, celle d'atteindre Paris, celle d'atteindre cette grande ville. Non seulement les 2 millions d'habitants qui sont là tout autour de nous dans les 20 arrondissements, mais aussi ceux qui sont autour de nous et qui sont très nombreux. Alors le message de vision de cette année 2016 est encore un message de foi dans le Dieu qui peut tout, et aussi un message de détermination et de courage que je vous lance à demeurer attaché jusqu'à la victoire à l'appel et à la vocation que Dieu nous adresse. Oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien si nous sommes ici en plein centre de Paris. Nous avons une mission dans cette ville de Paris. Elle est très compliquée, elle est complexe, parce que les difficultés, les inconnus, les impossibles sont nombreux. Mais nous servons le Dieu à qui tout est possible. Alors je veux laisser, à travers ce message, cette pensée sur votre cœur. Dieu a fait de notre Église un arc prêt pour mener le combat et remporter la victoire. Il a fait de notre Église un arc de guerre. Faisons la lecture, si vous le voulez bien, dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Prépare l'arc avec ta main. » Et quand il eut préparé l'arc de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et le roi l'ouvrit et Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël, « Maintenant frappe contre terre. » Et il frappa trois fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Mais il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. » Vous savez, souvent nous sommes comme le roi Joas. Et nous disons, « Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-nous, bénis ton œuvre. » Et nous espérons que la bénédiction tombe sur nous toute faite et que nous soyons alors comme transportés de victoire en victoire, comme des aigles planant au-dessus des montagnes. Cependant, ce n'est pas comme cela que le Seigneur agit, en tout cas avec nous, mais plutôt comme Élisée le fit ici avec le roi Joas. Alors rappelons le contexte. Élisée est âgé et il est mourant. Et le roi Joas vient chercher à son chevet la bénédiction du prophète. Et dans la manière dont il interpelle le prophète, il est clair qu'il est au courant de ce qui s'est passé bien des années plus tôt lorsque Élie remonta vers le père et qu'Élisée l'accompagnait, puisque Élisée avait employé la même formule que le roi répéta, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et le roi espérait certainement la même bénédiction que celle qu'Élie avait transmise à Élisée, vous savez, la double portion. Alors je ne sais pas s'il espérait que Élisée lui donne son manteau, celui qu'il avait reçu d'Élie, si Élisée lui donne son bâton, ou alors si Élisée fasse comme le pensait Naaman, c'est-à-dire agiter ses mains autour de lui, mais le roi voulait quelque chose de précieux de la part du prophète, comme lui-même l'avait reçu du prophète Élie. Je crois que nous voulons aussi la double portion. Nous ne voulons pas simplement une portion, une part, mais nous voulons la part des fils héritiers, des fils aînés du royaume de Dieu. Mais vous savez, pour obtenir cette part, ça ne vient pas tout seul. Et Élisée expliqua alors au roi Joas qu'elle ne se manifesterait qu'en fonction de son engagement, traduisons qu'en fonction de son travail. On a l'impression par moments que travail et foi, ça ne va pas ensemble. On se dit que la foi doit nous donner accès immédiatement à toutes les réserves et les bénédictions du royaume de Dieu. Un homme de foi n'attend pas. Un homme de foi ne travaille pas parce qu'il reçoit tout de suite. Mais l'apôtre Paul a écrit « J'ai travaillé plus que tous ». Je crois dans la valeur du travail. Et je crois que Dieu agit à travers notre travail et notre engagement. Et c'est ce que voulait faire comprendre Élisée ce jour-là au prophète, au roi qui venait sur lui. La bénédiction se manifesterait en fonction de son engagement, au point que ce serait lui qui déclencherait la bénédiction et que l'étendue de la bénédiction qui viendrait dépendrait de sa foi et de son travail. Ça me rappelle encore une fois Deux Rois chapitre 2 verset 10 lorsque Élisée réclama la double portion à son père spirituel et Élie lui dit « Ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé dans les cieux, alors ça t'arrivera, sinon ça t'arrivera pas. Ce que nous demandons au Seigneur est difficile. Ce que nous demandons au Seigneur comme bénédiction pour accomplir notre œuvre dans cette ville est difficile. Et il nous faut nous attacher à la promesse du Dieu jusqu'à ce que nous la voyions. » Alors Élisée commanda au roi cinq choses. Cinq choses, cinq ordres qui conduisent à la victoire. Premièrement, il lui demanda de prendre un arc et des flèches. Mes frères et sœurs, en tant que disciples et église de Jésus-Christ, nous disposons d'un arc et des flèches. Nous disposons de la puissance du Saint-Esprit, des dons, des talents, de l'appel que Dieu nous adresse et de la volonté du Seigneur de sauver. Et ce sont là des arcs et des flèches. Mais je vais vous dire, il arrive très souvent dans les églises que cet arc soit un peu exposé comme un trophée du passé. Et on se rappelle alors ce que Dieu accomplissait. Mais surtout, on regarde ces choses comme un passé auquel on ne doit pas toucher. Cet arc est là, il faut le respecter. Voilà ce que Dieu a fait en son temps. Ou alors j'observe que l'arc et les flèches ne sont pas utilisées comme elles pourraient l'être entièrement. Mais le processus de la victoire débute lorsque nous prenons en main l'arc et les flèches que l'Esprit nous a confiées. Voulons-nous une bénédiction, une percée spirituelle, une victoire à venir? Alors Dieu nous dit, peuple de Dieu, prépare-toi à combattre avec les armes que je t'ai données. Et nous avons pris l'arc et nous avons pris les flèches. Deuxièmement, il lui commanda de préparer son arc. Disposer d'un arc, c'est-à-dire d'un ministère, de la présence du Saint-Esprit, d'un appel, des dons, de ressources, c'est une chose. Mais que l'arc soit opérationnel, c'en est une autre. Pour que l'arc soit opérationnel, il fallait d'abord le tendre. Il fallait le préparer et tendre la corde. Et ce n'était pas là l'exercice d'un enfant qui va s'amuser avec son petit arc et passer la petite cordelette autour. Les arcs de guerre étaient manipulés par des hommes de guerre. Et il fallait toute leur force pour courber l'arc et passer la corde et tendre la corde au maximum. Il fallait que la corde soit tendue le plus possible, parce qu'il savait que c'est cette tension de la corde qui donnerait à l'arc la puissance. Plus la corde serait tendue, plus l'arc serait puissant, et surtout, plus serait puissante l'impulsion qui serait donnée à la flèche lorsqu'elle serait relâchée. Mes frères et sœurs, nous avons tendu la corde. Nous avons pris notre arc et nous avons tendu la corde. Nous l'avons tendu dans la prière, nous l'avons tendu dans l'enseignement, nous l'avons tendu dans la vie de l'esprit, nous l'avons tendu dans le travail et le service. Oui, nous avons choisi de prendre notre arc et nous l'avons préparé. Nous n'avons pas voulu simplement nous arrêter à considérer que nous avions un arc et qu'avec cet arc, nous pourrions faire de grandes choses, Seigneur. Seigneur, tu nous as placés ici au centre-ville de Paris, nous pourrions faire de grandes choses. Seigneur, mon Dieu, tu nous as donné tes promesses, ton esprit, nous pourrions faire de grandes choses. Nous ne sommes pas arrêtés à cela. Nous avons pris notre arc et nous l'avons préparé. Et nous n'avons pas non plus prétendu que nous pourrions utiliser cet arc sans tendre la corde. Nous ne sommes pas contentés de dire ou de penser qu'il suffisait de dire « Nous avons l'Évangile et les promesses de Dieu, la victoire est à nous ». Nous avons compris que si nous avons un arc, pour qu'il soit opérationnel, il fallait le tendre. Et pendant toutes ces années de ministère, ensemble, nous avons tendu notre arc. Nous avons tiré sur la corde. Nous avons travaillé et encore travaillé à la transformation de notre Église. Et elle est devenue un camp de l'Éternel où se réunissent des disciples de Jésus-Christ, des témoins de Jésus-Christ, prêts à livrer un combat d'amour, de paix, de foi, de guérison, de restauration et de salut. Gloire au Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons mis en œuvre individuellement, collectivement, l'appel que Dieu nous a dressé. Nous avons tiré sur la corde et nous l'avons tendue. Et elle n'a pas rompu. Merci d'avoir accepté cette tension, de l'accepter encore, d'accepter que nous soyons comme ça de plus en plus, là, poussés dans nos retranchements, que ce soit dans le service ou dans le fonctionnement de notre Église. Vous avez accepté cette tension et nous n'avons pas rompu. Au contraire, l'Église est devenue plus résistante que jamais. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, notre Église est comme un arc prêt pour le combat. Non pas un petit jouet d'enfant, mais un arc de guerre. Une arme de combat puissante et capable de libérer une énergie considérable pour décocher des flèches fulgurantes et transperçantes. Nous avons donc pris un arc et des flèches. Nous avons préparé notre arc. Et ensuite, comme Élisée le dit, nous avons ouvert une fenêtre. Car disposer d'un arc avec des flèches n'a d'intérêt que s'il existe une cible à atteindre en vue de la victoire. Et c'est pour ça donc que le prophète commanda au roi d'ouvrir cette fenêtre vers l'est. Voyez-vous, ce n'était pas encore le temps de la porte ouverte, c'était le temps de la fenêtre. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas restés repliés sur nous-mêmes. Mais c'est vrai que nous n'avons pas encore mis pleinement les pieds dehors. Néanmoins, nous avons ouvert une fenêtre. Nous avons placé une fenêtre ouverte devant nous. Et c'est là un acte de courage. Ouvrir une fenêtre, c'est bien sûr apporter une nouvelle fraîcheur. Mais c'est aussi risquer de laisser entrer des courants d'air. Et quand des courants d'air envahissent une pièce, il y a de fortes chances que beaucoup de choses s'envolent, que les portes claquent. Et à cause de cela, beaucoup préfèrent garder les églises fermées, préfèrent fermer toute vision, parce qu'ils ont peur des changements, parce qu'ils ont peur des courants d'air, parce qu'ils ont peur que leurs habitudes soient bousculées. Mes frères et sœurs, merci, parce que vous avez accepté ces courants d'air, mais ils nous ont apporté la fraîcheur. Ils nous ont apporté un parfum nouveau. Oui, des choses ont été bousculées. Et je remercie tous les frères et sœurs qui étaient déjà là avant que j'arrive et qui ont servi le Seigneur avec le pasteur Boulagnon pendant des années. Et je vous remercie chacun d'entre vous de nous avoir suivis dans cette vision, d'avoir accepté que des courants d'air viennent et bouleversent les choses. Mais en faisant cela, en ouvrant cette fenêtre sur cette ville, en désirant cette fraîcheur du Saint-Esprit, nous avons placé devant nous une vision, le désir d'atteindre Paris et de ne pas piétiner dans nos acquis, même si ça devait passer par des transformations profondes. Alors nous avons pris un arc et des flèches. Nous avons préparé notre arc, nous avons ouvert une fenêtre et ensuite nous avons tiré une flèche à travers la fenêtre. Élisée commanda au roi de tirer cette flèche à travers la fenêtre qu'il venait d'ouvrir et il lui dit « Cette flèche sera une flèche de délivrance et de victoire sur tes ennemis. » C'était là une flèche prophétique qui rappelle que la victoire est acquise en Jésus-Christ notre Seigneur. Toutes les victoires ont été remportées à Golgotha. Cette flèche était indispensable. En prenant une image fréquente dans la parole, c'était comme ouvrir, rompre le sceau d'un rouleau, d'un livre. Vous savez que les livres à l'époque étaient des longs rouleaux qu'on devait dérouler. Eh bien, cette flèche a rompu le sceau qui tenait fermé le livre. Et nous avons commencé à le dérouler. Et je vais vous dire, au bout de ce rouleau, tout au bout, une victoire est annoncée. Mais il faut qu'il soit déroulé en entier. Et il faut passer par toute l'histoire qui est écrite. Il faut passer par tous les chapitres de ce rouleau pour atteindre la victoire qui nous est réservée. Jésus connaît la puissance et l'aboutissement de la flèche de délivrance et de victoire qu'il a préparée et que nous avons tirée. Il sait quelle victoire elle donnera à son royaume. En ouvrant une fenêtre vers la ville, nous n'avons pas simplement, mes frères et sœurs, placé une vision devant nous pour la regarder comme on regarde un tableau au Louvre. Je crains parfois à entendre certains parler de vision de rêve, qui ne soient que des visiteurs de musée, s'ébahissant devant un tableau qui est là en disant « Oh, qu'est-ce que Dieu peut faire ? C'est magnifique ce que Dieu peut faire. Voilà ce que Dieu m'a montré. Voilà ce que Dieu veut faire. » Mais ils ne font que regarder un tableau. Rien de réel. Mes frères et sœurs, nous avons placé une vision devant nous, mais nous avons tiré une flèche à travers. Nous avons tiré une flèche prophétique à travers. Et nous avons dit, nous voulons nous engager dans cette vision. Nous voulons vraiment amener le royaume de Dieu dans cette ville. Et d'abord, il fallait l'amener dans notre église. Nous avons donc pris un arc et des flèches. Nous avons préparé cet arc. Nous avons ouvert une fenêtre et nous avons tiré une flèche prophétique à travers la fenêtre. Et enfin, comme le commanda Élisée au roi, nous avons frappé contre terre. J'imagine que le roi dû se questionner intérieurement, mais qu'est-ce qu'il me demande là ? Enfin bon, avec les prophètes, vous savez, on ne sait jamais tout ce qui peut arriver. Et il s'exécuta et il prit une première flèche, il frappa une deuxième, il frappa encore, et puis il frappa une troisième fois et il s'arrêta. Au bout de trois flèches, il s'arrêta et Élisée fut irrité. Joas n'avait pas compris la portée spirituelle de son acte. Il n'avait pas compris que c'était à ce moment-là, dans cette action prophétique, que la bénédiction était en train de lui être communiquée. Il n'avait pas compris que chacune des flèches frappées au sol était l'annonce d'une bataille gagnée à venir. Un chapitre de plus dans le livre de la victoire. Et il n'avait pas compris qu'il faudrait pas une, pas deux, pas trois, mais plusieurs batailles pour avoir la victoire définitive. Joas s'arrêta donc trop tôt. Il aurait dû frapper cinq fois, six fois, et cela annonçait déjà que plus tard, il n'irait pas au bout de la guerre qu'il devait mener et qu'il se contenterait de quelques succès sans s'assurer d'une victoire définitive. Mes frères et sœurs, nous sommes à un point où nous pouvons nous contenter de quelques succès. Nous pouvons nous contenter de cela. Et nous pouvons dire nous avons remporté des batailles. Mais ne pensez-vous pas que si nous arrêtons maintenant, si nous arrêtons de frapper au sol maintenant, nous arrêtons trop tôt? Même si parfois nous disons, Seigneur, mais jusqu'à quand il nous faudra frapper? Ce n'est pas encore le temps d'arrêter. Nous avons frappé une fois, deux fois, trois fois. Je vais même dire, nous avons frappé plusieurs fois. Pas simplement deux fois, trois fois, mais plusieurs. Et gloire à Dieu, vous ne vous êtes pas lassés. Et tout ce que nous avons accompli depuis ces années, depuis plusieurs années maintenant, n'est pas vain. Nous le voyons juste en regardant autour de nous. Il y a tellement de personnes que nous ne connaissons bien, nous ne connaissons pas bien, de gens que nous accueillons en permanence et nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Mais il est vrai malgré tout que nous, jusqu'à présent, nous n'avons fait que frapper à l'intérieur. Nous n'avons fait que frapper au milieu de nous. Mais chaque fois que nous avons frappé dans ce lieu, une fois de plus contre terre, nous témoignons de notre foi et de notre passion pour l'œuvre du Seigneur et de notre envie profonde d'en découdre sérieusement quand le Seigneur n'ouvrira pas simplement la fenêtre, mais nous ouvrira la porte. Et toutes les flèches que nous avons frappées pendant toutes ces années sont autant d'annonces de batailles à venir qui seront remportées en vue de la victoire que Jésus-Christ nous réserve et a préparée pour nous. Nous avons frappé, mes frères et sœurs, nous avons frappé, nous avons encore frappé, nous avons remporté des batailles spirituelles, nous avons remporté des batailles à l'intérieur, au milieu de nous, en nous-mêmes. Et c'est le défi des églises, le premier défi des églises aujourd'hui. Comment remporter des victoires à l'extérieur quand il n'y a pas de victoire à l'intérieur ? Quand les arcs sont accrochés au mur, quand ils ne sont pas prêts pour le combat, quand on se contente de quelques flèches tirées au sol, quand on n'ouvre plus de vision vers l'extérieur. Voilà la situation de beaucoup trop d'églises. Et par la grâce de Dieu, vous avez accepté de dépasser tout ça avec nous pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et je vous le dis, le temps approche où Dieu va nous envoyer combattre dans cette ville, témoigner de la puissance du Saint-Esprit dans cette ville, pour de réelles victoires de l'Évangile dans le cœur des hommes. Nous savons que nos ennemis sont terribles. Paris est une ville qui n'a jamais connu de réveil spirituel. C'est une ville où vous ne pouvez pas dire « il y a eu en ce moment-là telle bénédiction ». Mais dans toute son histoire, Paris a été une ville qui a lutté contre Dieu, contre l'Évangile. Et son histoire est entachée de sang, du sang des martyrs de Christ. C'est dans ce contexte-là que nous sommes. Mais c'est là que Dieu nous dit, il faut que tu serves. Nous sommes un camp de l'Éternel. Et nous sommes devenus, par la grâce du Seigneur, un arc de guerre, prêt pour le combat. Aujourd'hui, nous avons remporté, après l'avoir mené, un combat intérieur. Gloire au Seigneur. Mais il reste devant nous encore tant à faire. Alors, je dirais que ces années de service ensemble ont donc été marquées par le travail et le courage. En quelque sorte, nous avons retroussé nos manches et nous avons essayé d'exploiter au maximum notre part d'héritage qui s'offrait à nous. Et nous pouvons dire merci à nos pères, à nos anciens qui ont eu la vision et le courage de venir implanter une église ici en plein centre de Paris parce qu'ils nous ont laissé un cadeau extraordinaire, un lieu stratégique dans cette ville que nous avons travaillé. Et je vous le dis, si dans notre sphère de travail il se trouve encore quelques coins prometteurs que nous n'aurions pas encore exploités, quelques petits arbres ou buissons que nous pourrions encore utiliser, nous le travaillerons. Nous le travaillerons. Mais parfois il nous arrive de dire, mais Seigneur, dans ce lieu que tu nous donnes, dans cet endroit où nous sommes, c'est comme si nous avions tiré des flèches partout, il était possible d'en tirer, au point que nous n'arrivons même plus à nous mouvoir maintenant. Je vous le dis, s'il reste encore un espace, un lieu de croissance, ici nous l'utiliserons et nous frapperons encore à terre. Malgré tout, nous ne sommes pas encore sortis du cadre bien défini dans lequel nous nous évoluons tous ensemble. Mais maintenant, nous sommes conscients que l'avenir de notre Église ne s'inscrit plus simplement dans ce périmètre que nous avons bien exploité, mais qu'il va falloir aller au-delà, qu'il va falloir être audacieux, courageux, qu'il va falloir tenter de nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été faites, parce qu'ici à Paris, rien ne fonctionne comme ailleurs. Et cela va demander du courage et beaucoup de travail, encore plus que tout ce que nous avons vécu jusque-là. Mais ça en vaut la peine, parce que le Seigneur veut sauver des hommes et des femmes autour de nous. Alors soyons prêts à nous lever. Soyons prêts à brandir cet arc, cette église, ce ministère qui est le nôtre, cet appel qui est le nôtre. Acceptez encore, je vous prie, que nous puissions tendre la corde davantage. Mais accompagnez-nous aussi dans cette tension. Ne considérez pas que Cela regarde simplement quelques-uns qui servent autour de nous dans cette assemblée. Mais nous avons besoin de vous. Appréciez que des frères et sœurs supportent l'attention pour que beaucoup puissent simplement venir se réjouir au milieu de nous. Considérez que le dimanche, certains sont là depuis 8 heures du matin jusqu'à plus de 17 heures, en servant quasiment continuellement. Acceptez de nous rejoindre. Nous en avons besoin si nous voulons encore aller plus loin. C'est ensemble que nous remporterons ces victoires. Notre Église est un arc de guerre prêt à décocher des flèches puissantes. Et nous prions pour que le temps vienne. Mes frères et sœurs, et pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous le dis, si vous cherchez une église de confort, ne restez pas avec nous. Ici, ce n'est pas une église où vous pourrez vous apaiser. Ce n'est pas une église où on vous laissera tranquille. Ici, en plein centre de Paris, au milieu de la mêlée, c'est une église de combat. Je vous le dis, jamais nous n'aurons le confort que certaines assemblées en banlieue disposant de grands bâtiments auront. Ici, on est logé à la même enseigne que les Parisiens. Quand en province, on met une famille dans 140 mètres carrés, à Paris, on la loge dans 60. Et ça crée des tensions et des difficultés. Eh bien, l'Église, c'est pareil. Et on s'adapte. Mes frères et sœurs, si vous restez dans cette Église, ne me demandez pas de reproduire le même schéma l'année prochaine. Je ne sais pas ce que seront nos horaires l'année prochaine. Je ne sais pas comment nous travaillerons l'année prochaine. Ici, il n'y a rien qui est fixé. Le Saint-Esprit est libre de passer, de nous amener du jour au lendemain vers quelque chose d'autre, parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour une mission, et cette mission est le prioritaire, c'est d'atteindre cette ville. Il nous appartient non seulement de prendre l'arc, mais il nous appartient là, dans notre tête, dans notre cœur, d'avoir la mentalité des guerriers. Et une sœur de l'Assemblée partageait avec moi cette parole prophétique tout à fait juste. Elle me disait, Franck, maintenant, il faut que nous laissions tomber le vêtement des sacrificateurs pour revêtir l'armure des guerriers. Ce n'est pas une église où on vient simplement pour louer et adorer le Seigneur. Oh, merci mon Dieu. C'est une église où on vient pour travailler et on vient pour combattre. C'est notre mission. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Dieu a béni jusque-là, mais je crois que c'est rien. Je ne veux pas me contenter, vous ne voulez pas vous contenter de ces quelques succès. Nous voulons vivre tout ce que Dieu en réserve pour nous. Et je crois que le Seigneur veut nous bénir. Je vois, d'ici 10 ans, une église de 3000 membres. Quelle sera sa forme? Je n'en sais rien. Parce que c'est impossible de dire ce que sera la forme d'une église sur Paris. Elle sera complètement différente de tout ce qu'on imagine, parce que Paris est complètement différent. Mais je sais et je crois qu'elle existe déjà. Alléluia. Alors, je n'ai pas dit toutes ces choses pour nous auto-congratuler, pardon, mais j'ai dit ces choses pour nous encourager. Nous avons travaillé et Dieu nous a bénis. Nous n'avons pas attendu que la bénédiction vienne. Seigneur, envoie ta bénédiction. Non, nous avons travaillé. Nous avons prié, nous avons travaillé. Et je dis ce message pour nous dire, continuons et persévérons. Nous avons ouvert une fenêtre, nous avons tiré une flèche prophétique et elle suit son cours. Et nous avons frappé le sol plusieurs fois. La victoire est à nous. Peut-être nous faudra-t-il encore frapper le sol. Y a-t-il encore des victoires à remporter? Je crois que pour aller plus loin, il y a encore des victoires à remporter à l'intérieur. Parce que le Seigneur doit briser tous nos schémas de pensée, vous le comprenez? Il doit nous amener jusqu'au bout de nous-mêmes si nous voulons rentrer dans la victoire qu'il a en réserve pour nous. Mais lorsque ce sera fait, Dieu nous ouvrira la porte et alors un grand combat sera livré, mais sa gloire viendra sur cette ville. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que nous croyons que, quelle que soit son impudicité, quels que soient ses péchés, Dieu veut encore sauver des habitants de cette ville. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. C'est la prière de l'Église. Invitez nos frères et sœurs qui sont de passage à milieu de nous à prier avec nous, si vous le voulez bien, pour notre assemblée, mais à prier aussi pour la vôtre. Parce que nous ne voulons pas simplement considérer Paris, mais nous aimons notre pays. Et nous voulons aussi que le Seigneur visite notre pays. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier pour toutes ces années de ministère, la croissance que tu nous as donnée. Voilà quelques succès, Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous arrêter. Nous avons frappé le sol. Nous ne voulons pas nous arrêter maintenant. Seigneur, s'il y a encore quelques moyens de grandir, et puis s'il y a des victoires à remporter sur nous-mêmes, nous voulons encore frapper et aller jusqu'au bout de ce que nous pouvons faire, Seigneur. Et c'est alors, je crois, que tu nous ouvriras la porte de la victoire, du véritable combat. Merci, Seigneur, parce que tu œuvres au milieu de nous. Merci parce que ta main a agi parmi nous, de ce que tu nous as conduit pendant toutes ces années et que tu nous conduiras. Merci pour les 80 ans de ministère de cette Église dans la ville de Paris. Et merci pour toutes les années qui sont devant nous jusqu'à ton retour. Merci pour l'héritage que les pères nous ont transmis. Mais merci aussi maintenant pour l'histoire que nous écrivons dans cet héritage. Et je crois aussi que tu veux étendre cet héritage. Merci Seigneur encore de nous accompagner, de travailler au milieu de nous par ton esprit. Dans le nom de Jésus Père, nous te prions. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.